Nous allons ouvrir dans la Bible dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, vous savez que l'évangile de Jean, il y a plusieurs miracles qui sont rapportés. Il y en a 8 exactement qui sont rapportés, sans compter le miracle incroyable de la résurrection. Il y en a 7 avant la mort de Jésus et 1 après. D'accord ? Je précise parce que certains me regardent. Ils se souviennent d'une fois où j'avais dit qu'il n'y en avait que 7, parce que je ne parlais que ceux qui étaient avant la résurrection. Voilà. Mais je voudrais ce soir voir avec vous le troisième miracle qui a eu lieu. Et le premier nous parlait d'une transformation, vous vous souvenez, la transformation de l'eau en vin. Le deuxième nous parle du miracle que Dieu agit dans l'invisible. Un homme qui est venu voir Jésus, qui a demandé que son fils soit guéri. Il voulait que Jésus vienne jusqu'à sa maison. Jésus a simplement prononcé une parole. Et le jeune enfant a été guéri à l'instant où Jésus a prononcé la parole. Dieu agit dans l'invisible et combien c'est une bénédiction de le réaliser qu'encore ce soir. Si nous prions pour quelqu'un qui est loin d'ici, parce que nous sommes séparés par les distances, quelqu'un de notre famille, eh bien, nous avons l'assurance que Dieu est capable de le toucher s'il y a besoin, de le guérir. Dieu est capable de le faire, les distances ne l'importent pas. Le troisième miracle plutôt, c'est celui du paralytique à la piscine de Bethesda. Verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Troisième miracle, troisième signe qui a une portée spirituelle, comme les deux autres qu'on a vus et comme tous les autres, je vous laisse le soin d'étudier tous les miracles de Jésus qui sont rapportés dans l'évangile de Jean. Il y en a beaucoup d'autres qui sont rapportés dans les autres évangiles, mais Jean a insisté sur plusieurs miracles, celui-là en particulier, pour nous montrer que quand on est dans une situation où c'est impossible d'avancer, comme cet homme qui était impossible de marcher, Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de débloquer la situation, Dieu est capable de faire son œuvre. Et est-ce qu'il n'y a pas, dans le monde dans lequel on vit, est-ce qu'on n'est pas confronté souvent à des situations où on semble, comme il s'était rapporté mardi soir, au fond d'une fosse où on ne peut pas avancer? Il y a un mur devant, il y a un mur derrière, il y a des murs sur les côtés, au fond d'une fosse. Dans des moments comme ça où on est paralysé, il y a des mouvements qui sont impossibles pour cet homme. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que pour cet homme, il était dans un cercle vicieux. Pour qu'il puisse être guéri, il fallait qu'il aille dans l'eau, mais pour aller dans l'eau, il fallait qu'il soit guéri. Il n'y avait aucune solution, humainement parlant, il n'y avait aucune solution. Il était entouré d'une foule incroyable. Il est dit qu'il y avait toutes sortes de malades, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Mais tous, ils faisaient qu'une chose, ils avaient tous les yeux rivés sur l'eau. Vous savez que par rapport à ce verset concernant l'ange qui descend du ciel et qui agite l'eau, il y a des manuscrits, je le précise quand même, qui sont les plus anciens, qui ne rapportent pas cette histoire, qui semble avoir été ajoutée, qui semble plutôt rapporter la croyance. Les gens avaient une superstition concernant cette piscine de Bethesda. Les gens croyaient que quand l'eau bougeait un peu, il y avait un ange qui venait. Mais c'était pas. Quand on lit la Bible, on se rend bien compte que c'est pas la façon de procéder du Seigneur. D'ailleurs,
simplement réfléchissons à ce moment où l'eau semble bouger. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il y avait une ruée, la ruée des malades vers l'eau. Vous imaginez si ça avait été la réalité? Les malades se seraient précipités et je crois qu'il y aurait eu les pires scènes horribles, certains qui se piétinaient les uns les autres pour pouvoir être le premier à être guéri au travers de ce moyen-là. La Bible n'est pas contre des moyens miraculeux. Et il n'y a qu'à voir l'histoire de Naaman. Comment est-ce qu'il a été guéri, cet homme? Il s'est plongé plusieurs fois dans l'eau du Jourdain. Est-ce qu'il n'a pas été guéri par l'eau, justement? Mais c'était un appel personnel. Et vous voyez la différence avec cette histoire qui rapporte cette superstition de l'époque. C'était un appel personnel. Naaman devait obéir, lui qui était le chef de l'armée, lui qui était un général. Il devait s'humilier et obéir à un simple homme de Dieu. Et vous voyez la différence avec cette histoire. Mais cet homme qui était là, et c'est à lui que je voudrais revenir surtout, il avait plusieurs choses qui faisaient qu'il était paralysé spirituellement. Il avait une paralysie partielle, parce qu'à un certain moment, il essayait de se déplacer, mais il devait se traîner plutôt que se déplacer. Mais il y avait surtout une paralysie spirituelle dans sa vie. Et la première des choses que je remarque, c'est que quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?», il n'y a pas un grand oui éclatant qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Seigneur, je n'ai personne. Et voilà un des fardeaux qui pèse sur le cœur de cet individu, ce paralytique qui est là sur son lit. Seigneur, je n'ai personne. Moi, je crois que si c'est la première chose qu'il a pu dire au Seigneur Jésus, c'est parce que c'était la chose la plus importante qui était là, qui pesait dans son cœur. Et on n'a pas chanté ce chant justement qui parle d'un fardeau qui est lourd. Peut-être certains, ce soir, ont un fardeau sur leur cœur qui les empêche d'avancer comme cet homme. Cet homme, c'était la solitude, ce fardeau. Je n'ai personne. Pourtant, il y a une foule de malades autour de lui, mais il n'y a personne qui a envie de l'aider, cet homme. Il n'y a personne qui veut s'occuper d'abord de quelqu'un d'autre, du bien-être de quelqu'un d'autre, avant de s'occuper de son bien-être. Et on est dans une société où c'est vraiment cet état d'esprit qui règne. C'est-à-dire, moi, mon plaisir d'abord, mon bien-être d'abord, les autres, après, s'il en reste un peu. Mais ce n'est pas la vision du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a une façon de penser totalement différente. Et à cause de sa paralysie, cet homme, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Il y a des mouvements qui lui sont impossibles. Par exemple, c'est impossible qu'il se débrouille tout seul. Pour pouvoir se déplacer à un endroit ou à un autre, il a besoin que les gens puissent le porter. Et face au péché, la Bible nous dit qu'on est dans la même situation que cet homme. C'est impossible qu'on puisse se débrouiller tout seul, qu'on puisse se sauver nous-mêmes de notre péché. Il y a besoin de l'assistance de quelqu'un d'autre. Et c'est impossible à cet homme d'être utile aussi aux autres. Peut-être qu'il voulait, et si, il voulait être, peut-être que dans son caractère, il était quelqu'un qui aimait aider les gens. Mais ça lui était impossible, de par sa situation. Et face au péché, la Bible nous dit aussi que c'est impossible qu'on puisse s'aider les uns les autres. C'est impossible que moi, je puisse sauver quiconque ce soir. Mais c'est impossible que vous puissiez me sauver aussi. Il n'y a qu'une seule personne par qui le salut est possible, c'est la personne de Jésus. Et ce que nous devons faire ce soir, c'est simplement réaliser que c'est lui qui est le Tout-Puissant, nous tourner vers ce Dieu qui est plein d'amour. Et la Bible nous parle de l'amour de Dieu d'une façon incroyable. Ça serait intéressant peut-être qu'on puisse le lire, simplement nous en rappeler dans 1 Corinthiens chapitre 13, pour montrer la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. 1 Corinthiens chapitre 13, un passage bien connu qui est une description de l'amour de Dieu et qui, à chaque fois qu'on le lit, nous met au défi à nous de mettre en pratique ces choses-là. Et c'est possible dès l'instant où on s'attend au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. » On pourrait marquer l'amour de Dieu. « L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. » L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Et vous voyez tout de suite là la différence avec les gens qui l'entouraient, cet homme. Peut-être même son propre cœur. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Et c'est cet amour-là qu'il veut révéler encore ce soir à quelqu'un, peut-être en particulier, pour répondre à ce fardeau de la solitude. Ah, il n'y a personne qui peut m'aider. Je suis entouré de personnes égoïstes. Mais peut-être parce que pendant des années, on a été égoïstes. Les gens ont répondu de cette manière envers nous. C'est qu'ils sont devenus aussi égoïstes. Je vais arrêter de penser aux autres, je vais penser à moi maintenant. Peut-être que quelqu'un a été déçu par les autres. Et c'est un fardeau sur sa vie. Et vous savez qu'il y a beaucoup de fardeaux qui sont là, qui peuvent peser dans notre cœur et qui nous empêchent de marcher. Imaginez quelqu'un sur qui on met un sac de ciment de 50 kilos sur les épaules. Est-ce qu'il va marcher facilement? C'est évident que non. Et plus le fardeau est lourd sur nos épaules, si c'est deux sacs de 50 kilos, vous allez vous rendre compte bien vite, je vous laisse le soin d'essayer, que c'est très difficile à marcher. Et cet homme, il était là, il n'avait pas seulement le fardeau de la solitude, il avait un autre fardeau qui le paralysait aussi spirituellement, l'échec, l'impuissance face aux situations de la vie. Il y a des situations qui nous échappent, il y a des situations dont on n'a plus le contrôle. Peut-être à un moment donné, on avait encore le contrôle, mais à ce moment-là, pour cet homme, c'était fini, il n'avait plus le contrôle. Pourtant, on sent bien dans son cœur qu'il ne veut pas finir sa vie comme ça. Vous êtes d'accord ? On sent bien que cet homme, il ne voulait pas finir sa vie sur un lit, sur une civière, en attendant désespérément d'être guéri. Cet homme, il voulait aller plus loin. La preuve, c'est qu'il a réussi à convaincre quelqu'un de le transporter jusqu'à cette piscine où il y avait cette sorte de superstition. Il pensait que bon, dans le pire des cas, je serais guéri. Mais au moins, au pire, je mourrais là, de toute manière. Donc, tant qu'à faire, je vais m'approcher de cette chose qui peut peut-être me guérir. Et il y a des personnes comme ça qui vont voir toutes sortes de personnes, les voyants, qui vont voir des magnétiseurs, qui vont voir des personnes auprès de qui ils pensent trouver la guérison. Et c'est vrai que ce genre de personnes, c'est bon de le rappeler, même s'il y a des signes de guérison apparentes qui peuvent se réaliser, parce que la Bible dit que le diable est puissant pour faire des miracles aussi, mais le diable n'est pas puissant pour guérir totalement. Si on est guéri à un certain endroit, je prends un exemple, on est guéri à la main, et bien peut-être qu'on va avoir un problème à la tête. Vous voyez, ça se propage, le mal ne disparaît pas quand c'est le diable qui guérit. Et je connais une personne qui allait voir des voyants justement, toutes les choses mauvaises que la voyante lui a dit se sont réalisées, toutes les bonnes choses ne se sont pas réalisées. Et c'est comme s'il y avait une malédiction, d'ailleurs la Bible dit que quand on va voir ces personnes, c'est des malédictions qui sont données. Et c'est comme si les malédictions que la personne lui disait, ben, se sont toutes accomplies sur sa vie. Voilà pourquoi c'est dangereux de se fier à des superstitions. Voilà pourquoi c'est dangereux de se fier à ces personnes qui trafiquent avec les puissances mauvaises. Voilà pourquoi c'est beaucoup mieux de s'intéresser à ce que dit la Bible, à ce que dit le Dieu qui est plein d'amour, le Dieu qui est plein de bonté, plein de compassion. Dieu, il ne fait pas, il ne guérit pas pour récolter des sous. Dieu, il guérit parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il aime les hommes, simplement, parce qu'il veut leur faire du bien. Et cet homme, il est là face à l'échec, face à l'impuissance de sa situation, mais il voudrait que ça change. Et quand on parle aux gens qui sont autour de nous, combien de fois les gens nous ont dit « Ah, moi, je veux aller en enfer ». Qui a pu dire un jour « Moi, je veux aller en enfer » Si on demande à quelqu'un autour de nous, on sait pertinemment que ce n'est pas son désir. Vous êtes d'accord ? La plupart, il y a des gens qui sont satanistes et qui ont choisi délibérément, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais si on pose la question aux gens qui sont autour de nous, est-ce que vous voulez aller en enfer ? Non, je ne veux pas. Et la plupart disent, moi je ne veux pas finir comme ça, je ne veux pas avoir que ma situation soit totalement séparée de Dieu. Et l'échec spirituel qu'on peut connaître, c'est de vivre dans le péché justement. Le fardeau du péché, c'est quelque chose qui nous conduit forcément vers l'enfer. Et le seul moyen de ne pas aller vers l'enfer, c'est d'être libéré du péché, c'est de croire à tout ce que nous avons chanté juste avant, c'est de croire que Jésus est mort à la croix justement pour nous libérer du péché. Dieu est le seul qui peut nous en libérer au travers de la personne de Jésus. Et Dieu est le seul qui est capable de tracer un chemin là où il y a un mur devant nous. Souvenez-vous du peuple d'Israël, ils avaient devant eux la mer Rouge, c'est-à-dire spirituellement un mur qui était là, ils ne pouvaient pas avancer. Mais Dieu était capable de tracer un chemin là où il y avait un mur. Et ça, c'est notre Dieu. Dieu est le Dieu qui fait le miracle du mouvement. Il est capable de nous permettre d'avancer alors qu'on ne peut pas avancer humainement. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il y a cet homme qui était là, il y avait des mouvements impossibles dans sa vie, des choses qu'il ne pouvait pas faire, mais il y avait aussi des mouvements inutiles. Et là, je parle plutôt de tout ce que la religion, par exemple, pourrait apporter. Est-ce que cet homme, s'il chantait des beaux cantiques, ça changeait quelque chose à sa situation ? S'il répétait les plus belles prières, ça allait changer quelque chose à sa situation. S'il donnait tout l'argent en aumône aux pauvres, est-ce que ça allait changer quelque chose ? Non. Et des fois, dans notre monde, on nous fait croire certaines choses par rapport à la religion. En respectant des actes religieux, en respectant des traditions, vous allez pouvoir être sauvés. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Les actes religieux ne nous font pas rapprocher de Dieu, plus que d'autres choses. Par contre, venir dans la présence de Dieu, avec un cœur sincère et honnête, ça, ça change la vie. Des fois, c'est la pression que la société nous met. Il faut absolument que tu t'enrichisses. Il faut absolument que tu aies une bonne position sociale. Et j'imagine cet homme, dans l'époque d'aujourd'hui, où on a beaucoup plus de facilité pour les handicapés, j'imagine cet homme qui peut-être aurait voulu réussir, il commence à faire de grandes études, il commence à faire des écoles d'ingénieurs, il commence à avoir un bon métier, il commence à avoir beaucoup d'argent. Est-ce que ça change quelque chose à sa situation? Et vous voyez que la société nous pousse vers ces choses-là et nous dit « Aie un bon métier, et marie-toi, et une maison, possède beaucoup de choses, c'est comme ça que tu seras heureux. » Et si c'est vrai que ces choses nous procurent du bonheur, ce n'est pas des choses qui nous donnent l'assurance de rencontrer Dieu par contre. Il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire, mais pour cet homme, ces mouvements ils étaient totalement inutiles. Il avait besoin de faire le bon mouvement. Il aurait pu refuser de voir la réalité en face. Il aurait pu refuser la guérison. D'ailleurs, la question de Jésus, elle est bien là pour nous le rappeler. Jésus qui lui pose cette question qui nous semble presque bête. Veux-tu être guéri ? Imaginez la scène, il est entouré de personnes qui sont là, languissant après une guérison. Il y avait des boiteux, des aveugles, il y avait peut-être des sourds, des muets, tout ce que vous voulez. Et Jésus pose cette question, veux-tu être guéri ? Oui, mais cette question, elle n'est pas finalement si anodine. Parce qu'il y a des gens, qui croient que leur situation ne va tellement pas changer, qu'ils se complaisent au fur et à mesure dans leur péché. Et il y avait un pasteur qui racontait, quand il était enfant, il avait une voisine. Et cette voisine était une chrétienne dévouée, et elle avait recueilli chez elle une personne qui était très malade, très malade. Et alors elle s'occupait d'elle, et cette chrétienne, elle travaillait en même temps, donc elle allait à l'usine, et puis elle revenait le midi, elle s'occupait d'elle, elle a choyé, elle a chouchouté, tout ce que vous voulez. Et puis après, elle repartait travailler. Et puis un soir, elle rentre et elle s'aperçoit que dans sa maison, il y a des choses qui ont bougé. Et cette personne qui était là, qui était presque mourante dans le lit, chaque fois qu'elle allait la voir, alors elle a décidé de faire un petit test. Elle a claqué la porte comme si elle allait travailler le lendemain, et puis elle s'est écartée, puis elle a commencé à revenir 5 minutes après et regarder par la fenêtre ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était que la femme qui semblait tellement mourante, à force de soins, elle avait commencé à être guérie, mais elle était tellement bien choyée, tellement bien chouchoutée que elle voulait rester là. Donc une fois que la maîtresse de maison était partie, eh ben, elle commençait à aller fureter dans les coins, voir ce qui se passait dans les armoires, etc. Et elle touchait un peu à tout. Et cette femme a été obligée de se montrer, de lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et des fois, on est un peu dans cette situation où on est dans le péché, mais on est tellement complaisant avec le péché qu'on ne veut pas s'en sortir, malgré la souffrance que ça peut apporter. Ce n'était pas une vie non plus de rester toute sa journée dans le lit. Vous êtes d'accord ? Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire. Mais cette femme avait choisi de rester là, dans son lit, puis de rester dans cette maison bloquée parce qu'elle s'y trouvait bien. Et des fois, on est comme pareil avec le péché. On tolère tel ou tel péché et on refuse d'avancer dans la voie que le Seigneur veut nous tracer. Et on refuse de voir la réalité en face. Mais cet homme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il n'a pas refusé de voir la réalité en face. Il a répondu avec ses mots à lui. Il a répondu avec ses façons de comprendre à lui. Veux-tu être guéri ? Seigneur, je n'ai personne pour m'envoyer dans cette piscine là-bas. Non, c'est pas ça que je te parle. Veux-tu être guéri ? Je te demande pas de quelle manière tu veux être guéri. Je te demande comment. Je te demande si tu veux effectivement être guéri. Si tu veux te séparer de cette vie. Ça fait longtemps que tu souffres. Mais est-ce que tu veux maintenant que ça s'arrête, cette situation ? Et le Seigneur lui a demandé de faire le seul mouvement que cet homme paralysé pouvait faire. Le mouvement du cœur. Le mouvement de la foi. Le mouvement intérieur qui permet d'interpeller le Seigneur, qui permet de prendre le Seigneur au mot. C'est le mouvement de la foi, le fait quand le cœur est remué par les paroles de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on lit la Bible et notre cœur est remué ? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur parce qu'on est touché par la parole, par la vérité, par l'amour, par la compassion du Seigneur Jésus. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et ce mouvement-là, On va le voir, mais il ne dépend pas d'un événement extérieur. Ce mouvement-là, c'est un choix. Je réfléchissais à ce nom de Bethesda. Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Mais quand on regarde à comment c'est décrit cette maison de miséricorde, quand on voit cette description qui est donnée, on se rend compte que ce n'était pas tout à fait la maison de miséricorde. Mais par contre, que cet homme, lui, il a connu la transformation dans ce lieu de grâce. La maison de miséricorde est devenue vraiment un lieu de grâce. Jésus est venu à son contact. Est-ce que cet homme méritait d'être guéri plus que les autres ? Cet homme ne méritait pas plus que les autres. Par contre, ça faisait longtemps, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Et Jésus, il savait ces choses et il a choisi de le guérir à lui. Et il savait comment cet homme allait réagir. Et on voit par la suite, dans l'histoire qu'on a lue, que cet homme, après sa guérison, où c'est qu'il s'est rendu immédiatement ? Il s'est rendu au temple. Il s'est rendu au temple pour adorer le Seigneur. Vous voyez qu'il a bien réagi. Même s'il y a eu les gens qui l'ont interpellé, qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui étaient furieux parce que c'était le jour du sabbat, lui tenait son lit sur la tête. Imaginez cet homme, ça faisait 38 ans qu'il n'avait pas pu bouger. Est-ce que le fait de tenir son lit sur la tête, que sabbat ou pas sabbat, lui, ce n'était pas important. Lui, il était heureux, il était dans la joie, il était prêt à courir, à sauter, tout ce que vous voulez, parce que le Seigneur l'avait guéri. Mais ces hommes religieux, ils étaient là, encore dans leurs clichés, encore dans leurs traditions, et ils n'acceptaient pas de voir la bonté de Dieu, ils n'acceptaient pas de voir la compassion de Dieu. Combien nous devons nous préserver de toutes les personnes qui sont religieuses ? Combien nous-mêmes, nous ne devons pas tomber dans la religion, dans le fait de faire les choses par tradition ? Ah, tu vois, est-ce que ça serait dérangeant si quelqu'un qui est guéri se mettait à courir autour de la salle ? Je ne dis pas qu'il faut courir autour de la salle, ce n'est pas une doctrine. Mais est-ce que c'est dérangeant si quelqu'un qui est guéri se met à courir ? Si le Seigneur permet qu'une personne qui est paralysée se mette à courir, on ne va pas l'empêcher. Comprenez ? C'est comme cet homme qui est rentré dans le temple, que Pierre et Jean ont parlé avec lui, qui est rentré dans le temple en sautant, marchant et louant Dieu. Comprenez que c'est quelque chose de naturel pour quelqu'un qui était boiteux. On ne peut pas l'empêcher. Et la religion est là pour refroidir les ardeurs, pour refroidir la ferveur. Et l'ennemi va se charger peut-être pas de nous faire pécher par des choses qui sont trop évidentes, mais il va nous faire tomber dans certains travers, dans une certaine religion qui va faire en sorte que notre cœur qui était tendre au début va commencer à s'endurcir. Et combien nous devons nous préserver et avoir toujours ce cœur, ce mouvement de la foi dans le cœur qui fait que dès l'instant où le Seigneur parle, notre cœur va réagir, notre cœur va s'accrocher à la parole du Seigneur, notre cœur va être remué à l'intérieur parce que le Seigneur nous dit. Cet homme se trouvait à Bethesda, et à Bethesda, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben, il y avait, soi-disant, un seul endroit où on pouvait être guéri. Mais avec le lieu de grâce, c'est totalement différent. Il n'y a pas qu'un seul endroit au monde. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem, à côté de la porte des brebis, pour trouver cet endroit où on peut être guéri. Vous savez qu'il y en a qui ont remis en question les données historiques de la Bible, de cette histoire en particulier. La piscine de Bethesda, pendant des années, on ne savait pas où elle se trouvait. Et puis des fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour un endroit qui semble correspondre à cet endroit-là. Comme quoi la Bible, ce qu'elle dit est vrai, et je ne sais pas s'il y en a qui ont pu assister à la conférence de M. Truchel, c'était samedi dernier, et justement il parlait de ces choses-là, la Bible et l'archéologie, il montrait que toutes les données historiques de la Bible, tout ce qu'on découvre au fur et à mesure, les fouilles archéologiques mettent à jour, confirment que la Bible dit vrai. Et nous voulons non seulement dire cela, mais nous voulons surtout dire que toutes les données qui se concernent, le domaine spirituel, le salut par Jésus-Christ, par la foi, toutes ces choses sont vraies parce que ça, on les a vécues. Merci Seigneur de pouvoir confirmer que les données historiques, c'est très bien, ça, c'est merveilleux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sauvé de mes péchés. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir goûter à la guérison divine. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir que le Seigneur est capable de tracer un chemin là où je pense qu'il y a un mur dans ma situation présente. Et toutes ces choses sont possibles, alors que son nom soit béni. Oui, il n'y a pas seulement un endroit, mais dès l'instant où un cœur se tourne vers le Seigneur est capable d'agir. Il n'y a pas seulement le besoin d'attendre un mouvement extérieur. Vous savez, il y a des gens qui attendent que quelque chose d'extérieur se passe, et là, ils vont s'engager avec le Seigneur. Non. Dans le lieu de grâce, ce qui est différent, c'est que c'est une décision personnelle. C'est un choix. Le mouvement, il est volontaire. Et c'est pas, on ne nous l'impose pas, ce n'est pas un mouvement de l'eau qui s'agite, c'est une décision tout simplement. n'y a pas besoin d'être le premier pour être guéri dans le lieu de grâce. Il y a besoin d'être le dernier, c'est-à-dire de se reconnaître le dernier des hommes, le plus pécheur de tous les hommes. C'est reconnaître son péché devant Dieu. Dire, Seigneur, si tu es mort à la croix, c'est pour moi, parce que je reconnais que je suis un homme pécheur. Oui, je n'ai peut-être pas tué. Oui, je n'ai peut-être pas volé. Oui, je n'ai peut-être pas fait tel et tel crime. Mais Seigneur, devant ta perfection, je reconnais que je suis un pécheur. Et merci Seigneur, parce que le lieu de grâce, il a lieu. C'est partout où un cœur se reconnaît pécheur. Il n'y a pas besoin... Il y a ce lieu-là, la maison de miséricorde, ça ressemble à cet endroit où on est guéri de toutes les maladies physiques, mais on voit bien qu'il y a une injustice derrière ça. Il fallait que ça soit celui qui court le plus vite, qui sera guéri le premier. Et les autres, ils sont mis de côté. Mais le lieu de grâce, la différence, c'est que n'importe quelle maladie peut être guérie. Et je parle déjà des maladies physiques. Le Seigneur est tout-puissant pour guérir. Peut-être ce soir, quelqu'un a une maladie. Peut-être ce soir, quelqu'un se traîne depuis des années avec une maladie, et bien le Seigneur est capable de le guérir. Mais surtout, ce sur quoi le Seigneur veut insister, sur quoi Jésus insiste auprès de cet homme, c'est en lui disant, tu vois, moi je te guéris de ta maladie, mais il y a quelque chose de plus important, c'est la guérison de ton cœur surtout, la guérison de ton âme, que tu puisses te présenter devant Dieu et dire, mais j'ai été guéri dans mon cœur, je peux maintenant m'approcher de toi, Éternel. Le péché... Et cette maladie qui nous empêche d'approcher de Dieu, qui nous empêche d'être réconciliés avec Dieu. Mais le Seigneur est capable de nous sauver quand nous entrons dans ce lieu de grâce, au contact de Jésus-Christ. Et oui, il y a un mouvement de la foi. Il y a quelque chose qui doit se passer, mais il doit aussi avoir un mouvement divin. Et ce mouvement divin, il a lieu parce que Jésus est envoyé vers cet homme. Vous savez que le Seigneur Jésus, il le dira par la suite, dans les versets qui suivent, on se rend compte que Jésus disait « Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je le fais parce que le Père me l'a dit. » m'a dit de le faire. Et je crois que le Seigneur Jésus, ce matin-là, alors qu'il priait à genoux dans un lieu désert, Dieu lui a montré, va à la piscine de Bethesda, il y a un homme que je veux que tu guérisses. Et je crois que ce soir encore, Seigneur, est dépêché vers quelqu'un en particulier. On a chanté que le Seigneur était là, présent. Mais le Seigneur est envoyé, il y a un mouvement divin. Le Seigneur a déjà été envoyé, il a déjà... vécu sur la terre des hommes, il est venu jusqu'à la croix, il est remonté au ciel, mais ce soir il est présent par son esprit. Et il est dépêché envers quelqu'un qui se traîne depuis des années, qui est paralysé par une situation, quelque chose qui pense qu'il ne pourra pas arriver, parce qu'il se sent plus capable, il croule sous le poids du désespoir, sous le poids de l'impuissance face à la situation. Le Seigneur est envoyé vers vous ce soir, et il veut vous aider. Regardez comment cet homme se révèle, comment Jésus surtout se révèle à cet homme. Il se révèle tel qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Au verset 6, on voit que Jésus, l'ayant vu, couché. Il y a une foule entière, mais Jésus se dirige vers une seule personne, vers cet homme. Parce qu'il l'a vu couché, il l'a vu dans son malheur. Et il est précisé qu'il était, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus connaît parfaitement quelle est notre situation. Jésus sait depuis quand on traîne les choses. Jésus sait depuis quand on est paralysé. Mais Jésus veut nous aider. Et vous savez que la Bible nous dit, Dieu connaît le nom de chacune des étoiles. Et il a donné un nom à chacune des étoiles. Combien il y a d'étoiles dans le ciel? Qu'est-ce que quelqu'un s'est amusé à compter? Je vous laisse le faire, hein, parce que ça prend du temps. Il y a des milliards d'étoiles. Il y en a certaines qu'on ne voit pas en plus. Il faut des appareils sophistiqués pour les voir. Dieu connaît le nom des étoiles. Est-ce que, à plus forte raison, il ne connaîtra pas le nom de chacun d'entre nous? Et il ne nous connaîtra pas parfaitement? Si Dieu connaît toutes les étoiles dans le ciel, est-ce qu'il n'est pas capable de connaître chacun d'entre nous, de connaître aussi tous ceux dont nous souffrons, tous ceux qui nous pèsent dans nos vies, tous ces fardeaux qui sont là et qu'on traîne depuis des années, peut-être un péché qui est là, avec lequel on lutte depuis tant et tant de temps? Que le Seigneur veut nous aider à être débarrassés. Oui, il y a un mouvement divin. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse venir montrer le chemin qui mène vers le ciel, qui mène vers lui, justement. Et Jésus a été envoyé, Jésus nous a ouvert ce chemin. Maintenant, c'est à nous de l'emprunter. Comment le faire? Par ce mouvement de foi, par la foi. Et Jésus lui donne une parole, toute simple. Au verset 8, « Lève-toi, lui dit-il, prends ton lit et marche. » une parole, mais dans cette parole y compris la guérison que le Seigneur veut lui apporter. Fais ce que c'est impossible que tu fasses. Et si moi je vous le disais, ça ne servira à rien. Mais quand c'est le Seigneur Jésus qui parle, sa parole est esprit et vie. Dans sa parole, on peut puiser la vie pour pouvoir accomplir ce qu'il est en train de nous dire. Si on met notre foi, si on a ce mouvement intérieur de s'accrocher à sa parole, alors les choses impossibles se réalisent. Oui, il n'y a que Dieu qui peut faire l'impossible. Mais nous, on doit faire notre portion qui nous est possible à nous, notre portion à nous, notre part à nous, c'est de croire, c'est d'avoir cette disposition. Et tout ce qu'on peut rajouter par-dessus, ça ne servirait à rien. Et on imagine cette scène, le Seigneur Jésus, il guérit cet homme, un paralysé qui est là, qui se lève d'un coup, qui prend son lit, par la foi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'esquive, il se cache, parce que il était entouré d'une foule de malades. Mais moi, je crois que dans cette foule, je crois qu'il y en a qui n'avaient même pas remarqué qu'il y avait le Seigneur Jésus. Je crois que s'ils avaient remarqué que le Seigneur Jésus était là, il y aurait eu une émeute. Mais il y en a qui n'ont même pas remarqué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient figés sur l'eau. Je crois que dans cette foule, il y en a qui l'ont vu. Ils ont dit, tiens, on dirait cet homme qui vient de Bethléem, là-bas, de Nazareth, on dirait qu'il va faire quelque chose. Mais puis ils ont dit, bon, mais moi je ne suis pas intéressé par ce qu'il lui me demande. Lui me demande de demander pardon pour mes péchés, lui me demande de m'approcher de Dieu. Moi je suis intéressé par quelque chose de plus facile. Me jeter dans l'eau, c'est bien plus simple. Ça ne m'engage pas à grand-chose. Et il y a des gens qui préfèrent attendre un mouvement de l'eau, qui préfèrent attendre quelque chose d'extérieur qui ne va pas les engager, plutôt que d'obéir au Seigneur Jésus qui leur dit, repends-toi de tes péchés. Et là, quand on se repent de ses péchés, ça demande un effort. Quand on reconnaît notre péché, quand on pleure toutes les larmes de notre corps parce qu'on reconnaît qu'on n'a pas fait le bien jusqu'à présent, ça demande un effort. Mais il y a tellement la grâce du Seigneur qui surabonde par-dessus tout. Quand là où le péché abonde, c'est pas qu'il faut multiplier le péché pour que Dieu fasse grâce, mais là où on reconnaît notre péché. Et le Seigneur, il nous fait abonder de sa grâce davantage. Et certains qui étaient là autour de cet homme ont préféré choisir le plus simple. C'est comme les gens d'aujourd'hui qui préfèrent peut-être répéter des prières toutes faites. C'est comme les gens d'aujourd'hui qui préfèrent donner de l'argent, mais pas être eux-mêmes changer leur conduite. Le Seigneur nous invite, ce soir en particulier, à le recevoir de tout notre cœur. Je pensais à cette personne à qui on a pu parler avec une dame de l'Église, personne qui a entendu parler de l'Évangile, mais qui est encore ancrée dans un catholicisme plus ou moins aguerri, et on parlait du Notre Père. Et je lui faisais remarquer, vous savez, le Notre Père, c'est une très belle prière, c'est quelque chose de magnifique, et il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de ne pas prier le Notre Père. Mais il faut le prier en pesant chacune des paroles. Vous voyez la différence? Et j'ai commencé à lui dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais je me suis arrêté déjà à Notre Père. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui peut dire à Dieu notre Père. C'est ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, à ces personnes-là, à ceux qui l'ont reçu. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Mais si nous ne recevons pas le Seigneur Jésus, on ne peut pas appeler Dieu notre Père. Et je lui dis après, qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Et cette personne me dit, ça doit sûrement vouloir dire que Dieu mérite d'être loué, que Dieu mérite d'être élevé. Je dis, mais c'est pas ça qui est dit là. Si Dieu est mon Père, si je suis son enfant, alors je porte son nom. Et parce que je porte son nom, je dois vivre une vie qui sanctifie le nom du Seigneur aux yeux des autres qui m'entourent. Je dois avoir une conduite irréprochable, je dois lui obéir, je dois faire ce qu'il me demande parce que je suis son enfant. Comme mon enfant à moi, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, s'il crie, on n'attend pas à ce que ça soit... Jérémy Gadrois qui soit embêté à cause des erreurs de mes enfants, vous comprenez? C'est la même chose. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié, ça veut dire que moi, qui suis son enfant, j'ai une responsabilité de lui plaire, de lui obéir. Oui, certains préféraient faire ces pratiques-là, répéter de belles prières, mais sans mettre leur cœur, mais cet homme a choisi d'obéir. A choisi de suivre le Seigneur Jésus, a choisi de lui obéir à cette parole-là, mais a choisi d'aller plus loin. Il est allé dans le temple, il est allé dans cet endroit où il a pu entendre encore la parole de Dieu. Il a pu peut-être lui apporter sa louange. Il a pu se mettre à son service. Et quand il a vu le Seigneur Jésus en face, il a enfin pu le connaître davantage. Il a commencé à établir une communion avec lui. Jusqu'à présent, il ne savait même pas comment il s'appelait. Mais il avait compris qu'il était capable de le guérir. Mais il a compris, en le rencontrant dans le temple, que Dieu voulait aller encore plus loin avec lui, qu'il voulait le guérir surtout de ce péché qui était là dans sa vie. Oui, l'exemple de cet homme, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce soir, nous devons nous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous paralyse dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas un fardeau qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui est là, qui nous fait ne plus avancer depuis tant et tant d'années? On a l'impression de ne pas faire de progrès dans notre foi. On a l'impression de pas pouvoir connaître Dieu du tout, parce qu'on est loin de lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui paralyse notre vie? Peut-être c'est des échecs à répétition. Peut-être c'est la solitude. Peut-être c'est notre égoïsme à nous. Peut-être c'est le désespoir, l'impuissance face aux situations, tout ce dont on a parlé ou tout ce qu'il peut y avoir dans notre cœur que le Saint-Esprit nous montre en ce moment. Que devons-nous faire? Ne perdons pas de temps avec les choses inutiles, avec les soucis de ce monde, avec les actes religieux. N'attendons pas un mouvement de l'eau, quelque chose d'extérieur, mais prenons une décision. Faisons le bon choix maintenant, ce soir. Et alors que Jésus a été déjà envoyé, Jésus est déjà venu sur la terre, ce soir, il est là, présent par son esprit, comme on le disait. Et il s'attend à avoir un cœur qui va avoir le mouvement de la foi, avoir un cœur qui répond à sa parole, un cœur qui choisit d'obéir à sa parole. Croyons que Dieu est intéressé par notre misère. Jésus était plein de compassion. Il est allé vers cet homme parce qu'il souffrait, cet homme ne méritait rien. Jésus est allé vers lui. Ce soir, nous ne méritons rien. Par contre, le Seigneur est intéressé à guérir quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans la difficulté depuis longtemps, alors que nous puissions simplement croire à sa parole. Que son nom soit béni. Merci, merci Éternel, parce que toutes les choses que nous ne pouvons faire, Seigneur, ne nous permettent pas d'être sauvés, ne nous permettent pas d'être guéris. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire en toi. La seule chose que nous voulons faire, Seigneur, ce soir, c'est nous attacher à ta parole. C'est de croire que même si nous sommes dans une situation où tout semble bloqué, tu es capable de tracer un chemin, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que par ton esprit, Seigneur, tu ouvres une porte à quelqu'un ce soir. Peut-être quelqu'un est là sans emploi depuis tant et tant de temps et pour lui c'est un fardeau. Seigneur, que tu puisses poser ta main et débloquer la situation. Seigneur, que tu puisses lui donner ce commandement de se lever à cette personne et de t'obéir. Et que cette personne puisse le faire, Seigneur, en ton nom. Tu vois, peut-être quelqu'un qui est sous le fardeau du péché, qui depuis tant et tant d'années est tellement loin de toi, Seigneur, et qui a l'impression de jamais pouvoir s'en sortir. Seigneur, par une parole de toi, tu es capable de la libérer, de lui permettre d'avancer sur le chemin de la vie, Seigneur. Spirituellement, tu veux tracer un chemin pour elle, Seigneur, parce que tu es venu pour porter la malédiction du péché sur toi-même, pour clouer le péché à la croix, et pour pouvoir nous apporter la vie à nous qui sommes restés là, Seigneur. Tu vois cette personne qui se bat avec un péché depuis tant et tant de temps aussi, cette personne qui te connaît déjà, Seigneur, je te demande de l'aider à réaliser que tu es le Dieu qui veut la sortir de ce péché, la sortir de cette paralysie spirituelle, cette personne qui a l'impression de stagner dans sa vie spirituelle. Seigneur, tu nous appelles à la croissance, tu nous appelles à l'édification, tu nous appelles à la progression. C'est ce que nous voulons faire et je te demande dans ces moments de bénir cette personne, de lui accorder aussi une parole de ta part, une parole pleine d'esprit et de vie qui va lui permettre de lui communiquer cette force de t'obéir, cette force d'aller plus loin avec toi dans ces instants, Seigneur. Merci, merci parce que tu es le Dieu de vie, le Dieu qui procure la vie, le Dieu qui donne la vie avec abondance. Et dans toutes les situations que nous confrontons, qui sont trop dures pour nous, qui nous paralysent, Seigneur, tu nous donnes d'aller plus loin malgré tout. Parce que tu es le Dieu qui fait plus que ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci d'être ce Dieu-là sur lequel on peut compter jour après jour. Merci parce que par la foi, par ce seul mouvement de la foi dans notre cœur, nous pouvons débloquer des situations parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui agis
dans l'invisible. C'est toi qui transformes comme nous l'avons vu, Seigneur. Alors ce soir, fais ton œuvre dans les cœurs. Touche des vies, guéris des malades aussi. Tu vois, quelqu'un peut-être qui se traîne une maladie depuis des années, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas non plus à avoir une conviction, Seigneur. Que tu puisses lui donner une conviction ce soir, une parole de ta part. Et que ta grâce puisse abonder dans son cœur éternel. Amen.